C'est le retour au boulot pour le collègue Jérémy Filosa qui est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Passe un bon temps des fêtes.
Absolument.
J'ai vu des photos, t'es en Floride.
Oui, en Floride.
Bien chauffé la couenne un peu.
Absolument. C'est nécessaire. On a besoin de ça.
On recharge les batteries, mon cher ami.
Exact.
Écoute, parlons de l'impact de Montréal, parce que là, il y a un dossier qui, évidemment, pour les partisans, est intriguant, celui de Alejandro Silva. Qu'est-ce qui se passe avec Silva, là, présentement?
Ben, écoutez, ce qui est particulier, c'est qu'on a vu partout sur les médias sociaux que l'équipe d'Olympia au Paraguay utilise le visage d'Alejandro Silva dans sa campagne de billets de saison. Fait que là, eux autres, si tu lis ça en espagnol, ça dit « si on est capable de vendre 15 000 billets de saison, parce qu'eux autres étaient à 7 500 la semaine dernière, on va aller chercher ce gars-là ». Fait que là, ils mettent le visage du joueur de l'Impact sur leur promotion. Et à ce que je sache, là, en date de vendredi, il était monté à 10 000. Fait que là, je sais pas exactement qu'est-ce qui va arriver parce qu'il s'était donné comme journée ultime aujourd'hui, lundi, pour aller chercher les 15 000 billets de saison vendus pour faire l'acquisition d'Alejandro Silva. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'Impact jamais n'a donné l'autorisation à l'équipe d'Olympia d'utiliser le visage d'Alejandro Silva pour vendre des billets. Parce qu'à un moment donné, tu peux dire, tu sais, le gars, il peut dire là-bas, regarde, moi, je le veux, ce joueur-là, je suis prêt à te payer 4 millions pour l'avoir, mais il faut que tu me donnes une semaine, deux semaines, parce qu'il faut que je vende des billets de saison avant de pouvoir te donner l'argent. Mais ça n'a pas été le cas. L'Impact n'a jamais donné son autorisation. Mais Alejandro Silva, lui, il partage sur les médias sociaux les promotions de l'équipe de l'Olympia là-bas. Donc, tout porte à croire que l'entente est pratiquement réglée. On parle d'un montant, puis ça, c'est seulement des rumeurs, de 4 millions de dollars. Bon, on l'a payé 1,5, mais dans les mathématiques, si tous les joueurs que l'Impact allait chercher à 1,5, ils vendaient pour 4, ça serait parfait. On ferait de l'argent.
Mais pis... au-delà du revenu supplémentaire que Joey Saputo fera avec ce transfert potentiel, veut pas, c'est un joueur qui est important sur le terrain quand même.
Absolument. Puis c'est un gars qui est difficilement remplaçable. Puis je sais qu'il a connu une petite période difficile au début parce qu'il y a eu une période d'adaptation, mais c'est un gars qui a été quand même capable d'aller chercher 11 passes cette année. La chimie s'est bien bâtie avec Nacho Piatti, pardon. Et là, tu te dis, bon, ben, avec un attaquant qui a de l'allure, avec un numéro 10 qui a de l'allure, écoute, ils peuvent faire des flamèches, tous ces gars-là. Mais moi, j'ai pas de problème avec le fait que t'achètes un gars 1,5 million, un an plus tard, il y a un club qui t'offre 4, tu le vends, correct. Mais le camp d'entraînement commence dans 3 semaines, là. On veut pas recommencer la même rengaine que l'année passée, arriver au premier jour du camp et dire « Ah ben, il nous manque tel gars, il nous manque tel gars, il nous manque tel gars. » Parce que c'est ça qui est arrivé l'année passée. Mm-hmm. Et Rémi, dans son bilan de fin de saison, a dit que ça a fait très mal à l'équipe de pas pouvoir partir avec un club complet. Donc, c'est pas le fait que tu vends Silva, mais tu le remplaces par qui? Où vas-tu trouver un joueur de ce calibre-là qui va probablement lui aussi avoir besoin de quelques semaines, quelques mois pour s'adapter à cette ligue-là, alors que tu en as un présentement qui performe et qui est bon et qui s'entend bien avec Piatti? Donc, c'est un peu ça, là, la problématique.
Si on prend en référence ce que Joey Saputo a dit publiquement, se plaignant des piètres résultats financiers de l'équipe, veut pas, on sera porté à faire ce transfert-là et aller chercher ce montant d'argent supplémentaire.
Ah, ben, c'est sûr.
Au-delà
que...
de ce qu'on a besoin sur le terrain, là.
Oui, mais à un moment donné aussi, faut que tu te dises, l'année 2019, c'est une année hyper importante. Parce que si c'est vrai que Piatti va partir après cette année, parce que Piatti lui reste une année de contrat, puis ensuite de ça, il y a une année d'option à l'Impact, mais bon, tout semble porter à croire qu'il ne jouera pas l'année d'option. Ben, va peut-être falloir que tu essaies de gagner cette année. Parce que si tu perds Nacho dans un an, on s'entend, t'es probablement en reconstruction ou sinon t'es vraiment en période de magasinage. Puis des Piatti, ça pousse pas dans les arbres. Je veux dire, ils ont découvert une perle, ils l'ont pas payé extrêmement cher, puis c'est devenu un des 5 meilleurs joueurs de la MLS. Ça se remplace pas en claquant des doigts à Nacho Piatti. Donc peut-être que tu veux t'aligner pour essayer de gagner de quoi cette année, ce serait intéressant.
Et je veux pas faire de mauvais parallèles, mais souvenons-nous de la situation des Alouettes avec Anthony Calvillo, où Calvillo était le corps partant pendant trop longtemps et on n'a pas assuré la relève.
Exact.
Je regardais Piatti en fin d'année, c'est le plus vieux Piatti que j'ai vu avec l'Impact. Semblait extrêmement fatigué physiquement, éprouvé physiquement également, toujours avec la même créativité, mais honnêtement, on sent que l'énergie n'était peut-être pas là en fin de saison.
Ouais, je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher pour Piatti à la fin de la prochaine saison, parce que c'est clair que l'Impact vont enclencher son année d'option pour garder ses droits. Puis après ça, ben s'il y a des équipes qui veulent l'avoir, vont essayer de le vendre. Lui, il voudrait retourner en Argentine. Donc, si lui se trouve une équipe là-bas qui est prête à payer un montant, mais combien ils vont te donner pour un gars qui est sous contrat pour seulement encore un an? Fait que le club, il dit, bon, on va l'avoir pour un an. Peut-être qu'après ça, il s'en va ou il prend sa retraite, je sais pas quoi. Mais si Piatti connaît une autre grosse saison cette année, à l'image de ce qu'on a connu dans les deux dernières, l'Impact peut pas passer vraiment à la banque, là. Mais il faut avoir des plans B ensuite vite pour aller chercher des joueurs pour le remplacer. Joey Saputo nous disait au printemps, est-ce que je serais pas mieux d'aller chercher 3 joueurs à 2 millions au lieu de 1 à 5 ou à 6? Ben, c'est peut-être à partir de l'année prochaine qu'on va commencer à penser à ça. Mais si tu veux faire de quoi cette année, quand on pense aux acquisitions de Urruti, de Novilo, là, t'as Piatti, t'as Silva, puis tu penses à tous ces gars-là qui pourraient jouer en attaque chez l'Impact, puis tu dis, hey, tabarouette, ça va faire des étincelles, ça va être le fun. Mais c'est peut-être cette année. Mais là, clairement, ça a l'air que le dossier Silva, ça va finir par aboutir éventuellement. Là.
Jérémy, tu étais en vacances lorsqu'on a entendu que le général Laurent Simon faisait un retour à MLS avec le Toronto FC. Ouais. Il y a eu beaucoup de grogne sur les réseaux sociaux. On en voulait un peu à Laurent Simon. Je pense qu'il faut comprendre, au-delà du jeu sportif, il y a des conditions familiales qui font en sorte qu'il avait l'intention de revenir au Canada pour que sa fille puisse avoir de meilleurs soins.
Ouais.
Mais c'est quand même toute une surprise. Ça va mettre du piquant à cette rivalité entre Toronto FC et l'Impact. Là.
Ça, c'est sûr. Mais il faut comprendre comment ça... Parce que quand on a vu ça la première fois, on s'est dit, ben voyons donc, comment il fait pour retentir encore une fois à MLS et à Toronto? Selon ce que je comprends, puis ça, je suis pas à 100% certain, mais il avait gardé sa maison à Montréal.
Ouais.
Donc là, dans le fond, il revient au Québec, il va revenir s'installer au Québec. Comme il l'a déjà dit qu'après sa carrière, il avait peut-être l'intention de revenir vivre ici parce que sa fille obtenait des traitements avec l'hôpital et tout ça. Fait que l'endroit le plus près de Montréal, géographiquement, pour jouer au soccer, c'est Toronto. Fait que si c'est pas à Montréal, ben ça va être à Toronto, puis ça va permettre à sa famille de rester ici, d'avoir de la stabilité pour sa fille. Il va pouvoir faire des allers-retours probablement assez facilement, puis ça va lui permettre de poursuivre dans sa carrière de joueur de soccer. Bon, clairement, à Dijon, ça n'a pas fonctionné comme il aurait espéré. Mais écoute, tout un rebondissement.
Dommage que ça n'ait pas cliqué avec Rémi Garde. Parce que là, étant donné que Rod Fanny, les négociations, écoute, ça semble extrêmement difficile. Il y aurait peut-être une place pour un gars comme Laurent Simon.
Sauf que, tu sais, il y a eu tellement de mauvais sang là, quand Laurent est parti à la toute fin. De la façon dont ça a été fait, le fait qu'il n'a pas été contacté immédiatement. Il y a eu une amertume suite à ce départ de Laurent Simon. Moi, j'aurais aimé que à la base, au tout début, vraiment, on ait toutes les explications à savoir si est-ce que c'est vraiment Rémi Garde qui voulait plus l'avoir là, ou est-ce que la décision avait été prise avant, puis on dit à Rémi, c'est toi qui vas avoir la sale job d'aller lui dire qu'il s'en va, tu sais.
Je veux qu'on prenne quelques instants pour parler d'un ancien de l'Impact qui connaît du succès en Europe et lui qui a fait un passage ici à Montréal, remarqué après avoir fait un saut avec le Red Bull de New York, c'est Ambroise Oyongo.
Oui, Ambroise Oyongo, présentement, est en sélection. Il est parmi les finalistes pour le titre de latéral gauche de l'année en France, donc l'année 2018. On se souvient qu'Ambroise Oyongo était un joueur hors pair avec l'Impact de Montréal et que l'Impact, selon mes informations, avait tenté à plusieurs reprises d'essayer de le convaincre de rester en MLS, rester avec l'Impact de Montréal. Mais lui, il avait déjà son idée de fête. Il voulait aller jouer en Europe. Et dès qu'il y a eu l'opportunité d'être transféré à Montpellier, en France, il a saisi cette chance-là. Et non seulement, parce qu'au début, on se dit, il va aller là-bas, puis tu vas voir, il va réchauffer le banc, il sera pas assez bon. Écoutez, là, il a connu une très belle année 2018. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est le féliciter, puis dire, ce gars-là, il avait du cran, il savait où il s'en allait, il a saisi sa chance, puis il est allé là-bas, puis il l'a pas échappé.
Non, il mérite. Honnêtement, il mérite beaucoup de talent, une grande rapidité. Tu as été du côté de la Floride. Évidemment, le dossier du baseball à Montréal a fait beaucoup jaser courant des derniers jours.
Oui.
Et là, les Rays de Tampa Bay arrivent dans la fermeture de cette fenêtre potentielle pour se sortir de cette entente-là avec la ville de Tampa Bay jusqu'en 2027.
Oui.
Écoute, là-bas aux États-Unis, est-ce qu'on parle de ce dossier-là?
Ben, pas ben. Moi, j'étais plus dans le sud de la Floride, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Parce que les Rays, présentement, c'est vrai que l'entente, officiellement, elle se termine aujourd'hui, mais ça fait déjà 2 semaines qu'on a annoncé que, de toute façon, on n'irait pas de l'avant avec cette entente-là. Souvenons-nous que l'entente, c'était que les Rays pouvaient, jusqu'à aujourd'hui, négocier pour essayer de se trouver un terrain pour construire un stade plus près de Tampa Bay, donc à l'extérieur de la région de Saint-Pétersbourg. Bon, ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Maintenant, le terrain où est situé le vieux Tropicana Field, la ville veut le développer, ce terrain-là. Et là, ben, ils ont déjà averti les Rays en leur disant, ben, vous avez 2 choix. Si vous voulez faire construire un nouveau stade, On a un plan qui a été déjà dessiné par des architectes.
Sur le même site.
Sur le même site, avec un nouveau stade et des développements autour. Si vous nous dites, ben nous autres, c'est fini ici, on s'en va ailleurs, ben on démolit le stade et puis on va développer nous-mêmes. Parce qu'ils veulent absolument développer. Et le maire de Saint-Pétersbourg a clairement dit, nous, c'est pas vrai qu'on va attendre jusqu'en 2027. Là. On veut développer le plus vite possible.
Je veux que tu expliques aux gens la situation géographique de Saint-Pete. Ça, vraiment, c'est pas avantageux d'être là selon les Rays et selon ce que tu comprends également de la situation.
Ouais, c'est pour ça qu'on essayait de se sortir de la péninsule. Parce que ce qui arrive, c'est que t'as à peu près une quarantaine de minutes d'auto entre le centre-ville de Tampa et Saint-Pétersbourg. Et il y a seulement un pont qui traverse. Donc, c'est comme si le stade ici était à Brossard, puis il y avait seulement un pont qui traversait de Montréal pour aller vers la rive sud. Vous vous imaginez qu'à l'heure de pointe, c'est l'enfer. Donc, rarement les gens vont quitter le centre-ville et faire une heure et dix, une heure et quart de circulation pour se rendre sur la péninsule, au stade des Rays. Et c'est la raison pourquoi les Rays tentent de sortir de là. Et ils voulaient se faire construire un stade plus près du centre-ville. Maintenant, ça fait longtemps que Stuart Sternberg n'a pas parlé de la possibilité de faire construire un stade au même endroit. Ce serait extrêmement risqué. On voit ce qui se passe avec les Marlins de la Floride. Tu veux pas démolir ton Tropicana Field, ton vieux stade, pour construire un nouveau stade, puis finalement te rendre compte qu'il n'y a pas plus de monde parce que le monde trouve ça encore trop loin. Donc, moi, je ne vois pas les Rays avoir de l'intérêt pour construire un stade là. Je pense que les Rays vont dire à la ville, nous, on poursuivra pas à Saint-Pétersbourg. Et donc, à partir de ce moment-là, il va y avoir une négociation entre le club et la ville pour mettre un terme au bail. Parce que eux, ils ont clairement indiqué, on n'attendra pas en 2027 pour développer ce terrain-là. On veut le développer le plus rapidement possible.
Donc, les Rays veulent quitter. La ville veut bâtir. Si les Rays ne veulent pas, on veut développer le terrain le plus rapidement possible.
Exact.
Dans un avenir, ça ressemble à quoi? Un échéancier là-dessus, selon toi?
Ben, là, ce qu'il faut attendre, c'est le commentaire du commissaire Rob Manfred. Parce que je ne pense pas que Rob Manfred serait chaud à l'idée de faire construire un autre stade au même endroit. Clairement, ça ne fonctionne pas. Oui, le stade, il est vieux, il est désuet, mais il y a aussi le fait que géographiquement, ça fait pas de sens pour eux. Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on annonce? Moi, je pense que ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va jouer l'année, on va garder ça tranquille, on va garder ça sous le silence, puis un peu comme on a fait avec les Expos, ça va être à la fin de la saison qu'on va annoncer qu'on quitte la région. Et dans le cas de Saint-Pétersbourg, ben, ils vont pouvoir raser le stade et développer des condos ou peu importe ce qu'ils veulent mettre là. Mais présentement, le maire a clairement dit cette semaine au Tampa Tribune, on a deux schémas, sont prêts, sont là, un avec un stade, un pas de stade. Maintenant, aux Rays de décider s'ils embarquent ou ils embarquent.
Si je comprends ce que tu es en train de me dire, donc on passe une prochaine saison à Tampa et peut-être que l'année prochaine, après la prochaine saison, on pourrait voir les Rays s'en venir du côté de Montréal?
Moi, je pense que c'est une réelle possibilité.
On se croise les doigts, on demandera ça dans nos vœux de 2019. Jérémy, je te souhaite une très bonne année.
Ça me fait plaisir.
Santé, bonheur à toute ta grande famille. Merci beaucoup, mon ami Philo.
Salut. Bye-bye.